C'est pas facile d'interagir avec un collègue, un client ou encore un patron qui veut toujours avoir raison. Et la fameuse phrase, je te l'avais dit, ben, ça revient souvent. Alors, la question qu'on se pose, les collègues qui veulent toujours avoir raison, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Salut, Annie Boilard.
Bonjour, Valérie.
Tu dois en rencontrer, toi, dans le cadre de ton travail, des gens qui veulent toujours avoir raison.
Absolument. Puis je soupçonne que je sois pas la seule. Soit nos auditeurs, soit toi, parce que des fois, dans le domaine des médias, il y a des gens qui sont très forts sur leurs opinions. Disons, je vais dire ça poliment comme ça.
Annie, ça me fait rire, le je te l'avais dit, là, parce que moi, ça, je t'avoue que je le fais. Mais habituellement, quand je m'obstine, c'est parce que j'ai raison. Parce que quand je suis pas sûre de mon affaire, je me ferme la trappe.
Alors, mais tu n'as donc pas le profil exact de ce qu'on a en tête, parce qu'on a aussi des collègues qui, eux, veulent toujours avoir raison.
Ouais.
Hein? Faut toujours qu'ils démontrent qu'ils sont meilleurs que les autres. Alors là, ça, c'est vraiment difficile au quotidien.
Donc, des collègues qui veulent démontrer qu'ils sont meilleurs que tout le monde, là, ça existe, là.
Absolument. Puis souvent, ce qu'on va voir, c'est que toute banalité devient un sujet de discussion. C'est la meilleure couleur pour une voiture ou encore un but des Canadiens. Dans les réunions, même chose, ça fait que les échanges sont longs. C'est souvent des gens qui ont la même fâcheuse habitude, soit de corriger, d'interrompre les autres. Puis souvent, plus ils sont stressés, plus le phénomène se produit. Il y a généralement deux raisons principales pour lesquelles les gens adoptent ce comportement. Soit c'est une habitude, c'est-à-dire qu'ils ne se rendent plus compte qu'ils font ça dans leurs échanges, dans leur communication. Ou soit c'est ancré dans l'insécurité, soit l'insécurité pour eux-mêmes, par exemple leur image, la qualité de leurs idées. Ou encore pour l'insécurité pour l'entreprise. Ils veulent absolument le protéger l'entreprise de risques, de coûts. Mais là, ce qui se passe, c'est que c'est fatigant, Valérie. C'est fatigant pour les gens autour. Ça donne l'impression qu'il y a toujours quelqu'un qui veut rabaisser les autres dans l'équipe. Fait que déjà, c'est inconfortable. Puis après ça, c'est la perte de temps. C'est parce que tout devient une compétition, tu sais, comme une espèce de jute verbale. C'est toujours qui a raison, qui a tort. Un peu comme une course à qui va avoir le dernier mot. Et ça, ben, ça génère des risques dans les équipes de travail. Le premier risque sur deux, c'est le silence. C'est que les gens sont tellement tannés, là, exaspérés. Ils se disent, tant qu'à parler de ça en réunion, là, Paul, il arrêtera pas. Tu sais quoi? J'en parlerai pas du tout. Fait que le risque de silence. Puis l'autre, c'est le risque de la perte de temps. Parce que ce qu'on constate, c'est que ces conversations, ils sont plus construites, tu sais, pour que ce soit constructif, faut qu'on résout une problématique. C'est des conversations juste pour savoir qui a raison, qui a tort. Donc, ça fait partie du deuxième risque.
Beaucoup d'énergie dépensée.
Oui, absolument.
qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là?
Ben, il y a trois options, Valérie. Soit on va vers l'autre, on essaie de comprendre et d'aider l'autre. Soit on va se décider de se protéger ou de demander de l'aide. Donc, si on va vers l'autre, la première chose, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que la personne qui adopte ce comportement désagréable, là, de toujours vouloir avoir raison, soit qu'est-ce qu'elle gagne ou qu'est-ce qu'elle perd qu'elle ne veut pas, là. Par exemple, elle peut gagner une impression de crédibilité ou elle peut gagner avoir l'impression que ses idées vont plus passer facilement. Parfois, ce qu'elle perd aussi, c'est de l'ostinage, entre guillemets, parce qu'elle réalise que les autres, ils s'opposent pas à ses idées. Donc, qu'est-ce qu'elle gagne, qu'est-ce qu'elle perd et quel est le besoin derrière le comportement? Ça, c'est un peu universel, mais quand on arrive à trouver c'est quoi le besoin derrière, des fois, on arrive à combler le besoin puis le comportement déviant s'estompe. Si, par exemple, la personne, c'est de l'insécurité, ben, si on lui offre de la reconnaissance, de la valorisation, on observe ses bons coups, on souligne son travail, on la sécurise dans son poste, dans son emploi, des fois, ça va permettre d'atténuer. Donc, ça, c'est une stratégie. La deuxième, on disait, c'est se protéger. Se protéger, en partant, protéger son temps, son agenda. C'est nous qui décidons combien de temps on va passer à converser avec ces gens-là. Donc, la première chose, des fois, on va juste minimiser les échanges. Aussi, protéger ses idées. Il y a un moment où on va juste mettre fin aux conversations. Ou encore, la troisième et dernière stratégie, c'est de demander de l'aide. Ça peut se faire soit auprès de la personne elle-même. Moi, ma règle de pouce, Valérie, deux fois, je le dis à la personne, à l'employé. Puis si rien ne change, je me sens légitime de le faire escalader auprès de gestionnaires. Mais la première chose, c'est de commencer à demander, d'abord avec nos observations, puis l'impact que ça a sur nous, pourquoi ça nous dérange. Puis après ça, on va voir si on est capable de régler la situation de cette façon-là.
Puis ce serait quoi tes meilleurs conseils en terminant, là?
Bon, les meilleurs conseils pour Paul étant l'employé lui-même là qui veut toujours avoir raison, Je dis ça un peu à la blague, Valérie, mais il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui se disent « c'est peut-être mon cas ». Alors, première recommandation, c'est il y a deux grands champs de littérature qui vont donner des outils par rapport à ça. Le premier, c'est tout ce qui concerne les habiletés politiques. Quand on commence à se renseigner sur le sujet, on découvre vite que dans le monde du travail, on veut pas abaisser quelqu'un puis gagner au prix que quelqu'un perde complètement. On veut pas faire perdre la face à personne parce que dans les habiletés politiques, aujourd'hui, on est peut-être un contre l'autre sur le partage de ressources, mais demain, on va peut-être être un avec l'autre. Donc, on veut toujours maintenir de bonnes relations. L'autre élément, l'intelligence émotionnelle, c'est un champ de recherche qui va nous aider à développer la sensibilité pour reconnaître, OK, quel impact est-ce que j'ai sur l'autre? À quel moment la conversation là, commence à dévier puis que mon interlocuteur perd son intérêt? Ça fait que ça, c'est déjà deux belles grandes pistes. Ensuite, les questions qu'on se posait tantôt, on disait si on veut aller vers l'autre, essayer de l'aider, on peut se demander qu'est-ce qu'il gagne, qu'est-ce qu'il perd, le besoin. La personne elle-même, là, notre Paul, il peut s'auto-poser ces questions-là, un peu comme un voyage introspectif, voir qu'est-ce qu'il y en a, essayer de voir qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre pour combler son besoin, autre que d'adopter ce Moses de comportement qui dérange les autres. Alors, il y a tout ça qui peut être fait, la sensibilisation de l'équipe, sensibilisation du gestionnaire. Fait qu'on réalise qu'il y a plusieurs pistes pour essayer de s'éloigner de cette mauvaise habitude.
Oui, parce que c'est sûr qu'il y en a qui se sont reconnus ou qui ont reconnu des gens de l'entourage. Annie, si on veut en savoir plus sur Paul, on peut se procurer ton livre, Le problème, c'est le boss, enfin, je pense, parce que Paul est présent là-dedans, comme d'autres personnages que tu illustres bien.
Absolument, désolée de le souligner, Valérie. Oui, puis cette notion de qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds, le besoin derrière le comportement, il est vraiment bien expliqué dans plusieurs chapitres du livre. Alors, c'est une bonne référence. Merci de le nommer.
Puis, t'as vécu ton deuxième salon du livre en fin de semaine, là?
Oui, j'étais à Québec en fin de semaine dernière. Ça m'a fait plaisir de rencontrer certains de nos auditeurs. Les gens m'ont reconnu. C'est toujours flatteur quand les gens viennent nous voir puis viennent nous parler.
Ben, tu es multiplateforme, Annie. C'est normal qu'on te reconnaisse à un moment donné. Merci pour ces précieux conseils. Puis, bon, on va boire une petite camomille puis respirer par le nez aussi. Des fois, c'est ça que ça prend quand on a ce genre de problème. On remet ça la semaine prochaine, Annie.
Avec grand plaisir, Valérie. Bonne journée.